un, le message de l'ange, c'est un message de bonheur. Evangelizo vobis, evangelizo. Je vous donne, je vous annonce une heureuse nouvelle, une bonne nouvelle. Mais cette joie qu'il annonce n'est pas une joie commune et ordinaire. C'est une grande joie, gaudium manium. Ce n'est pas non plus un homme seul qui doit se réjouir, ni même un grand nombre d'hommes. C'est le peuple tout entier, c'est-à-dire tout le genre humain. Coderit omni populo, omni populo, tout le peuple. Le prophète Isaïe parlait de cette joie divine quand il disait, au chapitre 9, « Ils se réjouiront en votre présence comme se réjouissent les moissonneurs. » Comme se réjouissent les vainqueurs en se partageant les dépouilles de leurs ennemis après une victoire. Les moissonneurs, les vainqueurs, pour reprendre les images du prophète, ce sont tous les justes de l'Ancien Testament qui ont prié avec soupir et larmes pour la venue de leur sauveur. Or aujourd'hui, nous commémorons la moisson enfin arrivée, les dépouilles recueillies après la victoire, le fruit de leur peine, de leur combat, de leur désir et de leur prière. Et quelle est, me demanderez-vous, peut-être la cause de cette joie? Le même prophète nous répond, le joug qui pesait sur sa tête, la verge qui frappait ses épaules, le sceptre de fer d'un maître insatiable, vous les avez brisés dans votre triomphe comme au jour de Madian. De même que vous avez jadis arraché les enfants d'Israël à la cruelle domination du puissant roi des Madianites par le glaive de Gédéon, de même, par l'avènement de votre fils, vous arrachez maintenant les hommes à l'implacable tyrannie du prince de ce monde, de ce tyran qui les tenait dans la plus dure servitude, la servitude du péché, la servitude de la concupiscence. Le diable, en effet, exerce une véritable tyrannie en nous soumettant à la tentation, sachant qu'il utilise quelquefois par lui-même, directement, suggérant des mauvaises pensées par le biais de l'imagination, des choses qui sont contraires à la foi, à la piété, à la confiance, à l'amour de Dieu, contraires à l'humilité, à la modestie, à la douceur, à la patience, à l'obéissance ou encore à la pureté. D'autres fois, et c'est le plus commun, il se sert des créatures, des hommes au milieu desquels nous vivons. Il y a en effet beaucoup d'hommes qui ont le malheur d'être les esclaves du démon, qui coopèrent par leur péché, leur vie déréglée à son plan de perdition. Mais de façon plus large, le diable se sert aussi des défauts et imperfections de tous les hommes, même de ceux en état de grâce. Et que de mal peut faire une mauvaise compagnie, un mauvais livre? Aujourd'hui, les mauvaises choses si faciles d'accès sur les écrans. Toutefois, le diable n'aurait que très peu de prise sur nous s'il ne trouvait en nous-mêmes de fortes inclinations au mal, qui sont pour lui de puissantes alliées que sont les trois concupiscences. Le mot concupiscence vient d'un mot latin qui signifie convoitise, désir passionné. Depuis le péché originel, nous naissons tous avec ces trois concupiscences. Le baptême les a affaiblis, bien entendu, mais non supprimés. Nous en faisons tous l'expérience. La première est un désir grossier de satisfaire tous les mauvais instincts de notre chair, par la gourmandise, la mollesse, l'indolence, la paresse, et surtout les plaisirs indécents qui ne font que souiller notre âme. La seconde, un attrait pour les richesses, pour les biens de ce monde, et en général, pour tout ce qui brille au dehors. Alors que tout cela disparaîtra, et que nous emporterons dans la tombe, si ce n'est le remords d'avoir attaché son cœur aux choses de cette terre. On n'a jamais vu un coffre-fort financièrement. Troisième concupiscence, c'est un désir passionné pour les honneurs et pour l'estime. Rechercher sans cesse les compliments, les louanges, les succès et tout ce qui peut flatter notre petite vanité. C'est un attachement à sa petite personne, à ses idées personnelles, à sa volonté de créature misérable qui se voudrait l'aider. que seuls les vrais humbles, les vrais disciples du Sauveur peuvent goûter. À nous de prendre les moyens pour que Dieu nous la fasse passer. Autre motif de réjouissance, la plénitude des temps est arrivée. Quia natus est nobis odie salvator. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur. En ce jour, la source de toutes les grâces a pleinement et surabondamment débordé sur la terre. Et que Dieu nous envoie son Fils unique pour nous sauver. Si les anciens patriarches, à la seule pensée du Rédempteur à venir, éprouvaient de si vifs transports d'allégresse, si le désir de voir le jour du Christ inonder de joie le cœur d'Abraham, témoignage du Christ lui-même, bien plus ne devons-nous pas nous réjouir, nous qui possédons en réalité le bonheur qu'il ne possédait qu'en espérance. Nous qui pouvons dire avec le prophète royal, ô Dieu, nous avons reçu votre miséricorde au milieu de votre temps. Saint Pierre Chrysologue avait raison de s'écrier, elle est douce la lettre qui nous annonce l'arrivée de l'époux. Et en attendant le jour où viendra celui qui l'a écrit. L'engagement authentique est nécessaire jusqu'au moment où le trésor nous est livré. Agréables sont les pleurs et jusqu'à ce que vienne les fruits. L'accomplissement anéantit la promesse, le fruit est tombé la fleur. Ainsi donc, autant la présence de l'époux l'emporte sur sa lettre, le trésor sur l'engagement écrit, les fruits de l'Esprit Saint sur les fleurs de l'Ancienne Alliance. Autant notre félicité doit l'emporter sur celle de nos pères de l'Ancien Testament. Notre joie doit être d'autant plus grande. Nous avons notre Seigneur. Au fond, à l'auguste Trinité tout entière, nos hymnes de louange, car les trois personnes divines, comme dit Saint Léon, ont pris part à l'œuvre de notre salut. Le Père accepte le sacrifice, le Fils est la victime de la propitiation, l'Esprit Saint allume le feu de l'autel. Voilà donc, mes frères, la cause de notre joie. Il est aimable, notre Sauveur, que sa doctrine est sainte, que les exemples de vertu qu'il nous a donnés sont encore aujourd'hui une règle immuable pour faire le bien. Nous avons en lui le vrai visage de la charité, non quelque contrefaçon que le monde et l'Église conciliaire à sa suite essayent de nous revendre. Non, la vraie image de la charité, forte pour dire la vérité tout entière, sans compromission, forte pour aller jusqu'au sacrifice de sa vie, afin de réconcilier à son Père jusqu'au pire des pécheurs, au moment que ce dernier se repente. C'est cela la vraie charité. Donner sa vie pour ses amis, leur dire la vérité. Elle est donc grande, notre joie. Et parmi toutes les joies que ce jour fait éclore, il en est une incomparablement supérieure aux autres. C'est la joie de la bienheureuse Vierge Marie. Dans l'Ancien Testament, Sarah, l'épouse d'Abraham, parvenue à l'âge de 90 ans et dont la jeunesse avait été stérile, se voyant dans cette extrême vieillesse au moment de devenir mère, en conçut une telle joie, elle appela son enfant le rire du Seigneur. Et quiconque, ajouta-t-elle, saura ce qui m'est arrivé, prendra part à mon rire. Le nom d'Isaac, en effet, signifie rire ou joie par excellence. Et cette heureuse mère ne pouvait prononcer le nom de son fils, ce doux nom incessamment répété par sa tendresse maternelle, cherche à nous avilir par les plaisirs faciles, le confort, le matérialisme. Voyez-vous, chers fidèles, il est très important pour nous de faire attention à ce à quoi nous pensons, aux craintes que nous avons de perdre certaines choses. Cela révèle les attaches aux choses ici-bas. Nous ne goûterons les joies de Noël, les joies de cette venue de notre Sauveur.